Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des bonus audio accessibles quel que soit le niveau d'abonnement. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Revoilà les hors-séries, et cette fois-ci, je reçois l'illustratrice de talent, Héloïse Weiner. Héloïse est mariée à Mathias et ensemble ils ont 6 enfants. Avec elle, nous avons évidemment parlé de familles nombreuses, mais pas que. Héloïse et sa famille ont vécu en Angleterre de nombreuses années et nous avons abordé la différence de suivi des femmes enceintes et les accouchements à domicile qu'elle a vécu plusieurs fois et qui sont beaucoup plus courants là-bas. Nous avons aussi parlé d'instruction en famille et de leur organisation autour de ça. Nous avons évoqué leurs questionnements sur la publication ou non de photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux et des changements qu'ils ont opérés cette année. Enfin, elle se confie sur sa dépression du postpartum avec une grande franchise et je l'en remercie du fond du cœur. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de témoigner dans le podcast.
Merci à toi, je suis très contente.
Avec toi, on va parler de plein de choses et en particulier de la famille nombreuse. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton métier et surtout de qui est composée ta famille ?
Oui, alors je suis Héloïse, je suis illustratrice et j'ai 6 enfants, 4 garçons et 2 filles qui ont entre 8 mois et 9 ans.
Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi d'avoir une famille nombreuse ou c'est venu petit à petit ?
Moi, j'ai toujours voulu une famille nombreuse depuis que je suis, mais je crois pré-ado, je rêvais déjà d'être maman et d'avoir toute ma petite tribu. Donc, j'ai rencontré Mathias qui avait un peu le même rêve. Au final, on s'est très bien trouvés et on est très contents avec nos 6 enfants.
Qu'est-ce qui te faisait envie dans cette famille nombreuse ? Est-ce que toi, déjà, tu es issue d'une famille nombreuse ? Est-ce que c'est lié à ton histoire ou pas du tout ?
J'ai 2 sœurs, un frère et une demi-sœur.
D'accord.
Et puis, c'est vrai qu'avec ma petite sœur, j'ai 8 ans d'écart et j'ai un petit peu joué à la petite maman quand elle est née et ça m'a donné envie déjà d'être maman. Après, la famille nombreuse, je ne sais pas trop. Souvent, on me pose la question, mais pour moi, c'est un peu comme dire aux gens, pourquoi tu aimes le chocolat? Bah, je sais pas, j'aime le chocolat parce que j'aime ça. Et moi, c'est pareil, j'ai toujours eu cette envie-là. Je pourrais pas trop expliquer pourquoi, mais elle a toujours été présente en tout cas. Voilà.
On va reprendre dans l'ordre. Donc, pour le premier, comment ça s'est passé, ton envie de grossesse, ta grossesse, comment tu as vécu ça, l'arrivée de ce nouveau-né? Est-ce que maintenant que tu en as eu six avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait
Ouais.
différemment? Comment tu. Ouais, quel recul t'as sur cette première grossesse finalement?
Le premier, j'étais assez jeune, j'avais 21 ans, trop contente, surtout qu'on m'avait dit quelques années avant que j'aurais certainement besoin de passer par la PMA pour avoir des enfants parce que j'avais des kystes aux ovaires.
D'accord.
Et du coup, on se préparait à ce que ce soit peut-être un peu long ou qu'on ait besoin d'un petit peu d'aide. Et au final, je suis tombée enceinte très vite, ça n'a pas du tout été un souci, donc génial, très très bonne surprise du coup. J'étais par contre en première année à l'université en Angleterre, donc ça a été un petit peu compliqué à gérer ma première année tout en étant enceinte, mais tellement sur mon petit nuage, voilà, trop 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 contente.
Ok, t'as accouché en Angleterre.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Parce que nous, on connaît, enfin moi en tout cas, je connais bien le parcours des mamans en France, mais j'ai aucune idée de comment ça se passe à l'étranger. C'est quoi le parcours d'une femme enceinte et d'un accouchement en Angleterre?
Alors, effectivement, c'est un peu différent. En fait, moi, j'ai eu une grossesse, un suivi de grossesse en France et les cinq autres en Angleterre. Et la grossesse que j'ai faite en France, c'était ma quatrième. Donc, jusqu'à la quatrième, je ne savais pas trop comment ça se passait en France. Et j'étais un peu étonnée des différences qu'il y avait. Mais non, en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de prise de sang pour confirmer la grossesse. C'est juste le test de grossesse positif. Il n'y a pas non plus de prise de sang pour la toxoplasmose, ce genre de truc. Il n'y a pas le test du diabète, sauf si il y a un terrain à risque. Il n'y a que deux échographies, premier trimestre et deuxième trimestre. Et ah oui, et aussi, on nous propose, c'est très très courant l'accouchement à domicile. Moi, à l'époque, pour moi, j'allais accoucher à l'hôpital, c'était sûr. Mais ma sage-femme m'a quand même demandé où est-ce que tu souhaites accoucher, alors que c'était pas du tout quelque chose qu'on entend couramment en France.
Non, effectivement, c'est pas une question qu'on nous pose en France. Et du coup, pour le premier, t'as pas accouché à la maison?
Non, ma sage-femme m'avait encouragée à accoucher chez moi, donc j'avais dit oui sans trop me renseigner, mais parce que voilà, je suivais un peu ce que me disait ma sage-femme, comme j'avais une grossesse pas compliquée. Et en fait, là, on a dépassé le terme, et puis au final, on a pris un rendez-vous à l'hôpital pour le déclenchement. Donc voilà, j'ai été déclenchée à 42 semaines.
D'accord. Et pour le second, t'as accouché à la maison?
Non. J'ai accouché à l'hôpital pour les trois premiers et à la maison pour les trois derniers.
D'accord. Du coup, ton accouchement en France, tu l'as aussi fait à la maison?
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe un accouchement à la maison? Parce que j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler, mais c'est pas si courant que ça. Et surtout en France, effectivement, c'est assez compliqué de se faire accompagner. Il y a encore beaucoup d'endroits où c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de sages-femmes qui font ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe un accouchement à la maison?
Moi, j'ai adoré parce que déjà, dès le suivi de grossesse, c'est un suivi one-to-one avec la sage-femme. Les rendez-vous sont longs. Donc, nous, c'était peut-être 1 heure par rendez-vous. Vraiment, on sentait qu'on a le temps de créer du lien, qu'elle est là, elle est présente pas seulement pour le côté grossesse, mais aussi pour tout ce qui est psychologique et tout. Elle accompagne vraiment la globalité de la grossesse, on va dire. Puis on a le temps de construire une relation de confiance. On sait que c'est elle qui sera là pour l'accouchement. Donc, c'est pas comme quand à l'hôpital. En tout cas, j'ai jamais accouché à l'hôpital en France, mais en tout cas en Angleterre, quand je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher, je connaissais pas du tout les sages-femmes qui étaient présentes ce jour-là. Donc là, on connaît déjà la sage-femme. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus calme parce que du coup, on est dans un endroit où on se sent bien, où on connaît cet endroit, donc on est plus relax. Et en fait, quand on est plus relax, bah, du coup, les contractions, elles font moins mal, on est plus détendu et tout. Donc en fait, c'est ça, comment dire,
C'est un
tout,
cercle
tout, tout, tout.
vertueux, quoi.
Voilà. Après, bien sûr, il faut être à l'aise avec cette idée-là parce que l'idée, c'est pas d'accoucher à la maison à tout prix, mais d'accoucher dans un endroit où on se sent à l'aise, en sécurité, tout ça. Et nous, c'était totalement le cas avec les sages-femmes qui nous ont accompagnés. Donc on était très bien, on regrette pas. Et moi, personnellement, j'ai eu des bien meilleures expériences à la maison, où j'ai moins souffert, même pas souffert de la douleur, alors qu'à l'hôpital, malgré que j'ai eu la péridurale, j'ai trouvé ça très très difficile.
Comment tu t'es préparée à ça, à justement à cette gestion de la douleur tout seul?
Ben moi, j'ai jamais fait de préparation à l'accouchement, mais je sais qu'il en existe plein. Pour moi, c'était vraiment surtout dans le mental, en fait. Une fois qu'on comprend comment ça se passe et tout, et qu'on se dit, bah, c'est bon, je peux y arriver. Puis, le fait de parler avec d'autres mamans qui l'avaient fait aussi et qui m'avaient beaucoup rassurée là-dessus. Et effectivement, je vois bien pour mes 3 accouchements à domicile où j'arrivais très bien à gérer les contractions. Et par moments, je commençais à paniquer en me disant, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait mal. Ou alors à me dire, oh non, il y a une autre contraction qui va arriver. Et tout de suite, la douleur était plus intense à la contraction suivante. Alors que quand j'arrivais à juste lâcher prise et laisser tout venir, en fait, c'était largement gérable. Beaucoup plus gérable que quand on commence à paniquer, à se crisper.
Effectivement. Est-ce que tu as accouché avec tes enfants à la maison? Comment tu gères le fait d'avoir des grands qui sont là pendant que toi, tu accouches?
Je me suis posé la question un moment et clairement, pour moi, ça me bloquait complètement. Ça m'a bloqué. J'ai essayé 2 fois et puis je voyais que l'accouchement, les contractions s'arrêtaient, reprenaient. Je trouvais ça plus difficile à gérer. Du coup, j'ai fini par les... j'ai appelé les copains. Est-ce que vous pouvez vous occuper des petits, s'il vous plaît? Et dès qu'ils sont partis, ça s'est vraiment mis en route. Donc, je connais des mamans qui l'ont fait avec leurs enfants pour qui ça a été une super expérience. Mais moi, j'avais besoin d'être dans ma bulle. Surtout que mes enfants ont peu d'écart d'âge. Donc, les plus petits étaient encore en âge où ils me réclamaient tout le temps. Ils étaient tout le temps là. C'est pas comme si je pensais avec des plus grands. Ils savent se faire un peu, se mettre dans un coin, se faire tout petit ou voilà. Mais non, t'es tout petit comme ça, 1 an et demi. Maman, 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 c'était pas possible.
Et eux, quelle image t'as l'impression qu'ils ont de ces accouchements à la maison ou de ces accouchements en maternité? Comment ils accueillent vos enfants, en tout cas, comment ils ont accueilli les suivants? Est-ce qu'ils sont toujours contents d'avoir des petits frères et des petites sœurs? Est-ce qu'ils en demandent encore ou est-ce que là, ils se disent « Non, mais là, c'est bon, on en a assez des petits ».
Ah non, mais eux, ils voudraient 1 million de petits frères et sœurs. Et ils nous demandent, alors, quand il y aura le prochain bébé? Attendez, quoi? Attendez. Et puis non, en fait, pour eux, c'est normal d'accoucher à la maison. Ils ne se souviennent pas du tout, comme c'était les 3 premiers qui sont nés à l'hôpital. Personne ne se souvient de ces moments à l'hôpital. Et quand je leur raconte, ben, vous savez, vous êtes nés à l'hôpital. Ah bon, mais pourquoi? Il y avait un problème? Ben non, en fait. Donc non, pour eux, c'est tout à fait normal de naître à la maison. Il n'y a pas de souci.
Ok. Et alors, j'ai une grande question, moi, sur les fratries. C'est comment ça se passe, les relations entre frères et sœurs? Est-ce que tu as vu une différence entre quand il y en a 2, quand il y en a 3, quand il y en a 6? Est-ce que ça se démultiplie? Est-ce que ça a tendance à plutôt se réguler? Comment vous gérez ça, vous, en tant que parent?
Alors, je pense que ça, les personnalités de chacun doivent beaucoup jouer aussi. Mais nous, là, à 6, on voit qu'il commence à y avoir un peu des petites équipes. Mais ce qui est bien, c'est que même quand il y en a, par exemple, 2 qui se prennent un peu la tête, il y en a toujours... Personne n'est jamais tout seul, quoi. Il y a toujours quelqu'un d'autre avec qui jouer. Et puis, globalement, ils se disputent quand même très peu. Ça a été compliqué entre le 2e et le 3e pendant à peu près 2 ans... Tout le temps, ils s'embêtaient, ils se cherchaient tout le temps. Et puis à un moment, je ne sais pas, le 2e a décidé que c'est bon. Il nous a dit, finalement, je crois que j'aime bien Noé. Et depuis, ça va, ça roule. Donc voilà, et je me souviens juste une petite anecdote rigolote, c'est que William, mon premier, quand son petit frère est né, il avait même pas 2 ans, il avait 1 an et demi. Et au début, il a tellement boudé. Il a boudé, il n'était pas content de juste avoir un petit frère. Il a fait la grève de la faim, mais vraiment, il était...
Ah oui.
Il n'était pas à le regarder. Il lui faisait un petit regard en coin comme ça. Il était vraiment, vraiment pas content. Et puis, ça a pris de mémoire 4 jours. Et puis, au bout de 4 jours, il a dû se dire, bon, ben, je pense qu'il va rester là. Et maintenant, c'est les meilleurs amis du monde. Ils sont tout le temps ensemble. Ils s'appellent Best Pal, donc meilleur ami. Voilà, ils s'adorent, donc bon.
Comment, en tant que parent, vous avez géré ça? Le fait qu'à un moment donné, il y en ait un qui boude ou qu'il y en ait à un moment donné un qui se sente un peu pas bien vis-à-vis de ça. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à se dire « bon, ben, c'est normal, ça va passer » ou est-ce que ça vous tenait à cœur que ça se passe bien pour tout le monde? Comment ça se passe?
Honnêtement, on a plutôt laissé faire, sachant qu'il n'y avait rien de grave. C'était vraiment des petites prises de bec comme on pourrait s'y attendre dans les fratries. On n'a pas trop géré ce genre de truc. on est un peu comme ça, laisser faire les choses tant que ça dégénère pas, tant que voilà.
Finalement, ils se sont auto-organisés plutôt bien. J'ai cru comprendre que vous faisiez de l'instruction en famille. Est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas et ensuite nous expliquer comment vous en êtes arrivé à faire ce choix-là et comment ça se passe au quotidien?
Alors, l'instruction en famille, c'est d'instruire ses enfants en dehors de l'école. On appelle ça aussi l'école à la maison, mais je trouve que ce n'est pas du tout représentatif parce qu'on ne fait pas l'école et on n'est pas souvent à la maison. Et puis en plus, nous, on faisait du unschooling en Angleterre parce que c'est un peu moins strict les contrôles là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne suivait pas de programme, mais on suivait plutôt les envies et les intérêts de chaque enfant pour faire les apprentissages. Maintenant, on est en France, donc forcément, c'est différent parce que c'est beaucoup plus contrôlé ici. Il y a des contrôles chaque année. Il faut que les enfants plus ou moins matchent le niveau des enfants du même âge à l'école. Mais on n'a pas encore eu de contrôle en France parce que c'est notre première année où ils ont l'âge d'être contrôlés pendant qu'on est en France.
D'accord. Voilà.
Et comment nous est venue l'idée ? C'était en Angleterre encore, parce que c'est un peu plus répandu en Angleterre, et parler avec d'autres familles qui faisaient l'instruction en famille. Puis moi, j'ai fait des études pour être instit, et pendant D'accord. mes stages aux écoles, que j'ai adoré vraiment, c'était génial, mais j'étais quand même frustrée de me dire qu'il fallait noter tous les élèves de la même manière, alors qu'ils étaient tous différents. Et puis de me dire, un enfant qui galère un peu en maths, on le forçait à faire des maths alors qu'il a vraiment envie d'apprendre de l'anglais. Pourquoi ne pas lui laisser travailler plus son anglais et revenir aux maths plus tard? Voilà, comme on fait aux bébés, qu'il y en a qui apprennent à marcher super tôt, il y en a qui apprennent à parler super tôt, il y en a qui prennent leur temps. Et au final, on s'en fiche parce qu'ils apprennent tous à parler, à marcher. Voilà. Et donc, c'était un peu ce début de questionnement qui nous a fait rechercher l'instruction en famille Et voilà où on en est aujourd'hui.
Ok, mais comment ça... Alors moi, typiquement, mes enfants ne sont pas en instruction en famille et je ne me sens pas du tout capable de faire ce genre de choses. Du coup, je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne. Parce que toi, tu as un métier, tu es illustratrice, tu fais des livres notamment. Et comment tu t'organises pour à la fois avoir les enfants du coup, qui sont tout le temps avec vous, leur faire faire des activités parce que c'est des enfants et qu'on s'occupe de ces enfants et qu'on fait des activités et qu'il faut apprendre des choses et en même temps avoir un métier à côté. Comment on organise tout ça dans la vie de famille?
Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je ne suis pas totalement à plein temps, je suis peut-être à 80%. Mon mari, on est tous les deux auto-entrepreneurs et D'accord. on peut complètement organiser nos horaires comme on veut. Donc, de toute façon, il y a toujours l'un de nous qui est disponible pour les enfants. On ne travaille jamais en même temps. Et souvent, on va faire, par exemple, je vais travailler une journée, je vais faire peut-être 12 heures, 13 heures cette journée-là. Et le lendemain, je ne vais pas travailler du tout. Peut-être même deux jours d'affilée, je ne vais pas travailler. Donc, on s'organise en fonction. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'adapter notre temps de travail. Mais nous, c'est aussi quelque chose qui nous correspond parce qu'on a un peu de mal avec... on n'est pas très organisé comme... Tu vas peut-être le constater. Et donc, et puis c'est un métier, l'illustration, où quand on a l'inspiration, c'est génial, on est super efficace. Et quand il n'y a pas d'inspiration, c'est très très dur de vraiment de se forcer à le faire. Donc, nous, on a tendance à vraiment aller avec le flow et dire quand on a l'inspiration, écoute, je vais travailler, je suis à fond et tout, et puis aujourd'hui on va plutôt être avec les enfants, on va faire ci, on va faire ça. Après, on fait des sorties, par exemple quand ils ont eu une phase où ils étaient à fond sur les chevaliers et tout, donc on allait voir des châteaux, on allait beaucoup à la bibliothèque emprunter des livres, on lit beaucoup ensemble. Tous ceux qui savent lire, donc les trois premiers, sont passionnés par la lecture. Donc, en fait, nous, on achète des livres à la bibliothèque. Eux, ils les lisent tout le temps et ils apprennent des trucs, mais tout seuls. Parfois, ils nous disent, mais je pense que c'est pareil quand on a des enfants à l'école. Parfois, ils nous disent, hé, maman, tu savais que blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est des trucs qu'on n'a jamais vus ensemble, qu'ils ont appris tout seuls en regardant les livres. Après, on a aussi des cahiers. On a beaucoup de supports à la maison et de temps en temps, on fait aussi ça avec eux, des cahiers d'exercices typiques, classiques.
Ouais.
Et voilà, mais nous, on n'a jamais trop suivi le programme officiel, mais... Du coup, on a regardé ça en revenant en France et finalement, ils sont quasiment au même niveau que les enfants de leur âge à l'école, à la différence que du coup, comme ils étaient en Angleterre, il y a quelques trucs qui diffèrent. Par exemple, au niveau de l'histoire, ils en connaissent plus sur l'histoire anglaise. Ils n'ont pas appris à écrire en attaché parce qu'en Angleterre, ils ne le font pas du tout. Donc là, ils commencent seulement à écrire en attaché. Donc, c'est un peu, ils n'aiment pas trop ça.
Mais rien d'un des... globalement, ce n'est pas très handicapant de ne pas savoir écrire en attaché. Ça ne va pas changer leur vie.
Le plus important, ils le savent. Voilà, il n'y a aucun souci. Maintenant, ils apprennent vite quand ils sont motivés. Donc, ça se passe très bien.
J'avais vu qu'il y a deux de tes enfants qui avaient demandé à aller à l'école quand vous êtes rentrés en France. Oui. Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé. Ils y sont allés que 2 mois du coup parce qu'ils ont commencé en mai. Et c'était une petite école de village, trop sympa. Vraiment, les maîtresses étaient adorables. Les enfants étaient super bien intégrés, les maîtresses super encourageantes. D'ailleurs, elles nous ont même dit, elles nous ont encouragées à continuer l'instruction en famille en disant que de toute évidence, ils étaient...
Il n'y avait pas de problème.
Ça se passait bien, il n'y avait pas de lacunes. Enfin, après, ils étaient petits, ils avaient... Enfin, ils ont 4 ans et 6 ans.
Oui, mais ça commence déjà à être des âges où un enfant à 6 ans en France qui est scolarisé, ça fait déjà, c'est sa 4e rentrée, quoi.
Ouais. Là, on hésite à mettre les enfants dans une petite école aussi. Ben, déjà, parce que Noé-Hélène aimerait bien continuer l'expérience et que nous, on avait toujours dit, de toute façon, l'instruction en famille, c'est pas une prison, quoi. On fait ça parce que ça marche, mais les enfants sont tout à fait libres d'aller à l'école s'ils le souhaitent. Et on a trouvé une petite école sympa aussi, en effectif réduit et tout. Donc, on est... Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. C'est dans 2 semaines.
D'accord.
Là, voilà. On est en pleine hésitation sur la question. On est en train de voir tout ça. Mais en fait, nous, on n'est pas du tout anti-école. Mais par contre, on aurait bien aimé que les familles puissent faire le choix de l'instruction en famille ou de l'école quand elles le souhaitent et quand c'est possible. Et là, avec la loi qui a été votée récemment, malheureusement, c'est un peu... Ça devient compliqué, l'instruction en famille en France.
Mais du coup, Noé et Eden, ils ont envie de continuer l'école. Ça leur a donné envie de... Enfin, en tout cas, ils ne se sont pas dit une fois à l'école, « Ah ben non, finalement, je vais retourner en instruction en famille, c'était mieux.
» Un petit peu, Noé, il nous a dit... Je n'avais pas compris qu'à l'école, il fallait travailler tous les jours. Mais en fait, il est très, très, très sociable et il s'est fait plein de copains là déjà, là où on habite. Et il y a plein de ses copains qui vont à l'école. Donc, il serait dans la même classe qu'eux. Donc, forcément, il a envie d'y aller pour ça. Et mais pareil, là, on a appelé la directrice pour avoir des renseignements. Et puis, elle ne connaissait pas du tout l'instruction en famille. Donc, elle était un peu inquiète. Elle me disait, mais comment ça? En plus, vous n'avez pas suivi de programme, oh là là. Puis, on a posé la question aussi pour les deux grands. Donc, notamment le grand qui a 9 ans. Et elle nous disait, mais du coup, il va falloir lui apprendre à lire, tout ça. Donc, en fait, vraiment, les gens qui n'ont pas d'idée, ils ne se rendent pas compte du tout. Parce que nous, on sait faire tout ça, il n'y a pas de problème.
L'instruction en famille, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on apprend rien. Ça veut dire qu'on apprend différemment. Mais tes enfants, ils savent lire autant que des enfants qui seraient allés à l'école, quoi.
Mais bon, du coup, on a bien pu discuter. Elle était adorable, mais c'est vrai qu'elle ne savait pas du tout ce que c'était, en fait.
Et ben oui, je comprends. Comment vous trouvez... parce que, alors, pareil, moi, je ne fais pas l'instruction en famille, mais je suis des comptes sur Instagram où ils proposent pas mal d'activités. Et je vois qu'il y a plein de choses qui sont créées pour les parents qui font l'instruction en famille. Est-ce que toi, tu as des comptes comme ça qui te plaisent et chez qui tu vas piocher des activités ou des livres, des choses qui t'inspirent?
Non, mais moi, tout le temps, tous les soirs, je suis sur mon téléphone, je trouve plein d'idées. J'ai toujours plein d'idées.
C'est ça, la créatrice en toi est toujours...
Un peu trop. Après, j'arrive pas à toutes les faire, mais oui, il y a les réseaux sociaux, Internet, c'est génial parce qu'il y a plein d'idées de partout. Donc, on pioche ce qui nous correspond, ce qu'on a envie d'essayer. C'est top, ouais. C'est une bonne idée d'inspiration.
Ok. Il y a une autre question que je voudrais aborder avec toi. C'est que, alors, je n'ai pas du tout regardé, mais je sais que vous avez participé à une émission de télé. Je sais aussi qu'il y a une période où sur Instagram, tu montrais beaucoup ton quotidien, tes enfants, tout ça. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Tu as fait le choix de tout supprimer et de plus faire ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans un sens, dans l'autre? Quelle est votre réflexion du moment à ce sujet?
Alors, en fait, la question d'Instagram, moi, ça fait 4 ans que je poste des photos de notre famille sur Instagram, puis que je partage des aspects de notre vie sur Instagram. Beaucoup de choses. Et en fait, depuis la naissance d'Iris, il y a 2 ans, on a commencé à se poser un peu des questions de, mais en fait, est-ce que vraiment c'est sain de montrer ses enfants sur les réseaux sociaux? Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité depuis 2 ans à se dire, d'un côté, on montre rien qu'on trouve qui est négatif envers eux. De l'autre côté, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de montrer des images d'eux? Et puis aussi, surtout, où est la limite? C'est-à-dire que je ne me verrais pas poster une photo de mon enfant tout nu sur les toilettes. Voilà, ça je pense que c'est la base. Mais du coup, est-ce que j'ai le droit de montrer une photo de mon enfant en maillot de bain? Est-ce que je peux montrer une photo même de mon enfant tout habillé, mais en disant, oh, ben, il a des soucis de santé, voilà. Et en fait, on se disait, Peut-être que non, parce que peut-être que c'est quelque chose qui est en fait personnel, et c'est vrai qu'on est quand même une génération où y a pas eu ça avant nous. Nos parents, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, et en fait, on ne connaît pas trop vraiment les effets de ça sur les enfants. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais on ne sait pas, et c'est un peu cette incertitude qui nous a fait hésiter. Et quand on a participé à cette émission sur TF1, on a gagné beaucoup d'abonnés d'un coup. Et en fait, ça a un peu précipité notre prise de décision, quoi. D'un coup, on s'est dit, oh là là, vu les nombres d'abonnés qu'on a, il faut vraiment qu'on se décide maintenant, parce que voilà. Et donc, on a décidé que tant qu'on n'était pas sûr, on allait arrêter de partager trop de choses sur leur vie personnelle.
D'accord.
Donc, en fait, on n'est pas contre mettre, par exemple, une petite photo de famille de temps en temps, parce que effectivement, je ne vois pas le mal à ça personnellement. En plus, une photo de famille où on est tous ensemble, je me dis, ça peut difficilement être détourné, tout ça. Mais on n'a plus envie de partager individuellement sur chaque enfant qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui, jusqu'à ce qu'en tout cas ils soient conscients de ce que ça représente et qu'ils puissent nous donner leur accord en toute connaissance de cause, quoi.
Ok, je trouve ça intéressant d'en discuter, c'est un vrai sujet des réseaux sociaux et nos enfants et ce qu'on y partage de notre vie, de leur vie
Non mais c'est clair, et puis nous du coup c'est posé aussi la question de qu'est-ce qu'on allait faire avec Instagram, parce qu'en gagnant beaucoup d'abonnés, on a commencé à nous proposer beaucoup de placements de produits et c'est très très bien rémunéré. Et forcément, à un moment, on se pose la question de est-ce que j'ai envie de faire ça. Et comme moi, c'est un compte où je parle de ma famille, je ne parle pas trop de ce qu'il y a autour. En fait, je n'avais pas du tout envie d'utiliser ma famille pour gagner de l'argent. Et je suis arrivée au point à me dire, si je continue à partager de temps en temps des photos de famille, par exemple, je n'ai pas envie que ce soit pour gagner de l'argent, parce que c'est pas mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est pas de faire des placements de produits, c'est d'être illustratrice. Et j'ai quand même envie de garder ce compte pour partager sur ma vie de maman, parce que moi, je peux me donner mon accord sur ce que j'ai envie de montrer de moi et de ce que je fais. Et puis, j'adore regarder des comptes d'autres mamans, j'adore regarder d'autres comptes et tout. Je trouve ça chouette, en fait, les réseaux sociaux. Je suis pas du tout contre. Mais donc, j'ai envie de le garder, mais avec ces limites-là de, en fait, je ne sais pas ce qui est juste envers les enfants, donc on va un peu limiter ça.
Ok, mais je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis un peu comme ça. J'adore regarder les gens qui partagent tout, mais par contre, moi, je ne veux pas partager.
C'est ça.
C'est très paradoxal, tout ça.
Du coup, voilà. Mais par contre, du coup, je comprends les autres familles qui le font. C'est pas... Parce que même moi, je l'ai fait un moment. Et je sais que derrière, il n'y a pas de... Comment dire ?
Oui, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise intention.
Voilà, exactement.
Ok. Est-ce que vous continuez l'émission télé ou c'était non. Que sur une phase où, et puis ça s'est arrêté?
Non, on a été un peu déçus de certaines choses, même si ça nous a aussi apporté beaucoup de positifs, donc on ne va pas cracher là-dessus, mais sur la façon de faire de cette grosse chaîne de télévision, il y a quelque chose qui nous a un peu déçus, donc on n'a pas eu envie de continuer.
Ok, ça marche. Tu as fait deux livres sur la famille, Les Petits Loups et Les Petits Loups 2. Que j'ai lu cet été et que franchement, au début, je me disais, je vais prendre en photo les pages où je me dis, ah, mais c'est tellement ça. Et puis après, j'ai arrêté parce que mon téléphone n'avait plus que des photos des petits loups. Donc, clairement. Est-ce que tu as prévu des suites à ça?
En ce moment, je travaille sur un livre sur l'expatriation. Donc, il n'y aura pas trop les enfants, même si, en fait, c'est la première année en Angleterre. Donc, il y aura ma première grossesse et les débuts avec William. Mais c'est vraiment dans le contexte de comment ça se passe en Angleterre, justement, voilà. Et Les Petits Loups, je me laisse la porte ouverte pour faire un troisième tome, mais ce sera en fonction de l'inspiration, même si les anecdotes ne manquent pas, avec 6 ans, j'ai toujours des trucs à raconter.
J'ai quelques dernières questions sur la famille en général, avec vos parents, les gens autour. Vous, est-ce que vous avez de la famille en Angleterre?
Non.
Elle est uniquement en France. Et du coup, s'il n'y en a pas en Angleterre, comment vous avez vécu le fait de ne pas être proche de votre famille quand vous avez eu des enfants?
Ça a été très dur. C'est pour ça notamment qu'on est rentré en France d'ailleurs, pour se rapprocher un peu de la famille et des amis. Heureusement, on s'est fait des très bons amis français en Angleterre, expatriés comme nous. Et en fait, du coup, on agissait un peu comme la famille les uns des autres. Parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas leur famille non plus dans ces moments-là. Et c'est eux, par exemple, qui ont gardé nos enfants quand j'ai accouché des petits à chaque fois. Et nous aussi, mais eux, ils n'en ont que deux. Donc, écoute, on n'a fait qu'une fois.
C'était moins souvent. Ok. Tu as accouché en période de Covid pour le dernier.
Oui.
Comment tu as vécu ça? Le fait d'être un peu isolée, le fait d'avoir beaucoup de restrictions?
C'est, heureusement que c'était pas mon premier, c'est ce que je me suis dit toute ma grossesse. Parce que D'accord. j'ai pas pu l'annoncer à personne en face à face. Personne ne m'a vue enceinte de toute ma grossesse. Après, heureusement, j'ai accouché chez moi, donc quand même, bon, j'étais chez moi, quoi. Il n'y avait pas trop de restrictions à ce niveau-là, mais je sais qu'à l'hôpital, à l'époque, il fallait porter le masque en Angleterre. Il y avait les papas ne pouvaient venir que quand la femme était, quand le bébé était en train de sortir. Là, au moins, il a pu rester avec moi. Mais c'est nul. Je ne recommande pas. Je ne recommande pas du tout.
Est-ce que tu as eu des phases dans tes postpartum où tu t'es dit « Oh non, mais là, vraiment, c'est trop la galère, j'en veux plus. »
Pour Ezra, j'ai fait une dépression après l'accouchement.
D'accord.
Parce que l'accouchement s'est très, très mal passé. Et voilà, ça a vraiment déclenché une dépression assez sévère. Et puis, du coup, pour chacune des autres grossesses, j'étais quand même consciente de ça et j'en ai toujours parlé aux sages-femmes en disant bah, « j'ai fait une dépression et je veux que ce soit vraiment surveillé en postpartum parce que je ne peux pas revivre ça, quoi. »
Tu veux bien nous en parler un petit peu, de savoir comment déjà tu as identifié que tu vivais ça et comment tu en es sortie après ?
Bah, au début, on n'est pas trop sûr, enfin, moi en tout cas, parce qu'il y a le baby blues, il y a la chute d'hormones, tout ça, on se dit bah, « c'est normal » et moi… Comme l'accouchement s'était mal passé, même physiquement, j'avais un peu de mal à m'en remettre. On n'avait pas la famille à côté, c'était l'hiver. Je me disais peut-être un peu un mix de tout ça fait que, voilà. Mais moi, il y avait aussi le souci de… J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Ezra, donc mon deuxième. Parce que rapidement, le contexte de l'accouchement, en fait, moi, j'ai fait une hémorragie et je me suis évanouie quand ils ont sorti Ezra. Donc, je ne l'ai pas vu. Je me suis réveillée quelques heures après, mais Mathias était déjà parti parce que ce n'était plus les heures de visite. Donc, en fait, je me suis réveillée toute seule avec un bébé à côté de moi qui ne ressemblait pas du tout à son frère. Et le petit bracelet avec le prénom, là, bah, en fait, ils n'avaient pas eu le temps de me demander son prénom ni à mon mari. Du coup, il y avait écrit « Baby Boy ». Et moi, je me suis dit « c'est pas mon bébé ». Tout de suite, je me suis dit « c'est pas lui, il ne ressemble pas à son frère ». Je ne l'ai pas vu sortir, donc je ne sais pas si c'est vraiment lui qui est sorti de moi. Il n'y a même pas son prénom et Matt n'est pas là pour me confirmer que c'est bien lui. Et en fait, pendant un mois, deux mois, à chaque fois que je l'allaitais, que je m'occupais de lui, que je changeais la couche, il y avait ce petit doute à me dire « mais si ça se trouve, c'est pas lui, si ça se trouve, voilà ». Et du coup, bah, j'ai eu du mal à m'attacher à lui. Et puis en fait, le baby blues s'est transformé en fait… J'avais plus le goût de rien. Matt, à l'époque, travaillait à plein temps et j'étais toute seule avec les deux garçons. Et je faisais plus rien. Je faisais plus rien avec William. Je faisais plus la cuisine, je faisais plus le ménage. Au début, je pleurais beaucoup. Puis en fait, c'est arrivé un moment où je pleurais même plus. J'étais assise dans un fauteuil toute la journée à ne rien faire, à les regarder. Et puis, j'avais plus la force de rien, j'avais plus le goût de rien. Matt, il me disait, je sais pas, va prendre un bain. Il m'achetait des fleurs, il me disait, qu'est-ce que. Nana? Et en fait, rien ne me remontait le moral, il y avait rien à faire. Et ça s'est transformé en. Je sais pas quel est le mot en français, mais je commençais vraiment à avoir des pensées. Par exemple, je ne pouvais plus dormir la nuit parce que je m'imaginais que mon fils de 3-4 mois allait se réveiller dans son lit à barreaux, apprendre à marcher à quatre pattes, apprendre à grimper au-dessus de son lit, apprendre à ouvrir la fenêtre et sauter de la fenêtre et mourir. Je ne pouvais pas dormir parce que je me disais, il va se passer ça si je dors.
Des angoisses irrationnelles.
Vraiment, mais complètement irrationnelles. Ou alors, je vais fermer les yeux, le toit va s'effondrer. C'était comme ça tout le temps, tout le temps. En fait, à la fin, au bout de 6-7 mois, je ne le prenais même plus dans les bras parce que je me voyais le prendre dans les bras et le jeter par terre. Et je savais que je n'aurais jamais fait ça. Mais c'était horrible, c'était que des pensées comme ça tout le temps. Je me disais, je suis incapable d'être mère. C'était vraiment horrible, horrible. Et là, je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer comme ça parce que je n'arrive à rien faire. Donc, je suis allée voir le docteur. Tout de suite, j'ai fondu en larmes dans son bureau, dans son cabinet. Je lui ai dit, ne me prenez pas mes enfants, s'il vous plaît. Il m'a dit... Qu'est-ce qui se passe? Attendez, d'abord. Et là, je lui ai dit, je pense que je fais une dépression, j'ai tout raconté. Elle m'a proposé des médicaments et une thérapie. Et comme j'allaitais encore Ezra, j'ai voulu commencer par la thérapie sans les médicaments. Et elle m'a dit, OK, elle a été top. Parce que moi, j'avais peur que tout de suite, elle appelle les services sociaux, que voilà. Elle m'a dit, OK, on commence par la thérapie, mais je vous appelle toutes les semaines pour voir comment ça va. En gros, elle m'a fait un suivi super régulier. Elle m'a dit, dès que ça ne va pas, on vous met tout de suite sous médicament, voilà. Ou en unité mère-enfant, je sais pas comment ça s'appelle non plus. Mmh,
comme ça, une unité mère-enfant, ouais.
Et en fait, la thérapie a été extrêmement bénéfique, ça m'a tout de suite... dès les premiers, c'était assez intense au début du coup parce que j'en avais vraiment besoin. Mais dès les premières fois, ça a été un soulagement et voilà quoi. Ça a mis quelques mois après à ce que vraiment j'en sorte. Grâce à tous ces professionnels, je m'en suis sortie. Et après, il a fallu renouer le lien avec Ezra qui n'avait pas été fait au début, ça a été un peu compliqué avec beaucoup de culpabilité pour moi. Et je trouve aussi parce qu'on n'en parle pas assez de ça. Et vraiment, une dépression de postpartum, c'est autre chose que du baby blues, quoi. C'est violent. Et la culpabilité qu'on a autour, quand on dit « moi, j'ai eu du mal à m'attacher à mon enfant parce que blablabla », les gens qui n'ont pas vécu ça, souvent, ne comprennent pas que ce soit possible. Et là, aujourd'hui, avec mon fils, ça va très, très bien. Il n'y a aucun souci de lien. Tout va très bien, vraiment. C'est réparé. Mais il a fallu passer par une phase où il a fallu le construire, ce lien, alors qu'il était déjà grand. Il avait déjà 9 mois quand j'ai commencé à faire la thérapie. Et c'est pas la même chose de construire un lien avec un enfant de 9 mois qu'avec un nouveau-né où ça se fait tout de suite. Voilà. Mais aujourd'hui, tout va très bien.
Mais ça, oui, voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse réparer a posteriori et que ça ne pose pas de difficultés par la suite.
Voilà, on peut le réparer, donc c'est jamais... C'était vraiment ma crainte. Hein. Je me suis dit, j'ai tout foutu en l'air, mais en fait, non.
Ok, ouais, merci en tout cas de le partager avec nous parce que je pense que c'est important, effectivement, que les gens... entendre aussi parler de ce genre de difficultés, y compris du point de vue des femmes qui l'ont vécu. Et est-ce que du coup, cette thérapie-là, est-ce que quand tu as eu d'autres enfants, tu t'es dit, il faut que je la fasse en prévention, ou est-ce que juste tu as gardé une vigilance, mais finalement, c'est pas revenu et tu n'en as pas eu besoin?
Alors, elle m'avait donné quelques trucs à faire si, par exemple, je ressentais de l'anxiété. Et en plus, l'anxiété que je ressentais à l'époque, c'est pas du tout, je suis pas sujette à l'anxiété en temps normal, donc pour moi c'était tout nouveau, mais je savais quoi faire si ça recommençait, j'avais des petits trucs, j'avais son numéro et tout, et après c'était ma sage-femme surtout j'ai demandé un suivi plus régulier en postpartum, donc qui est venue plus souvent pour voir comment ça se passait. Et je pense que le fait de pas avoir la famille à côté et d'être isolée, ça augmente les risques, je pense, de dépression, parce que c'est dur dans ces moments-là d'être seule, en fait. Et avec un suivi plus régulier, ça s'est très bien passé. Et puis les accouchements aussi se sont beaucoup mieux passés à chaque fois. Mais comme quoi, ne pas minimiser comment se passe un accouchement, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui a tout déclenché. Hein.
Ouais, c'est hyper important, le vécu de l'accouchement et le fait de pouvoir en discuter aussi, c'est important. Bah écoute, merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant sur tous les aspects. Et merci beaucoup de m'avoir répondu avec autant de franchise.
Bon, plaisir, merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil.
Cet épisode touche à sa fin. Encore merci à Héloïse pour ses confidences à la fois sur la vie de tous les jours et sur les périodes plus difficiles qu'elle a traversées. Pour suivre son actualité d'illustratrice, vous pouvez la suivre sur Instagram avec le compte By Héloïse Weiner. C'est là que vous serez prévenu des prochaines campagnes Ulule pour ses prochaines BD. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes, classées par âge et par catégorie, sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast. want to invite you to listen to our show.
Niña Fin means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com